7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Dans quelques minutes, ce sera la chronique de notre nouvelle chroniqueuse Ludovine de La Rochère. Et puis ensuite, ce sera à 9h05, l'analyse de Jean Messia. Mais tout de suite, on passe à la chronique de Joël Ganam.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons tout de suite Jean-Eudes Gana pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour Jean-Eudes, je vous laisse quelques minutes avec Magda d'Hautefeuille et on vous écoute.
Bonjour Alexandre, bonjour Magda, je suis ravi de partager ces quelques minutes avec vous. Écoutez, j'ai écouté la fin de l'intervention de notre excellent ami et camarade Rodolphe Carte et... Bon, je ne partage pas exactement sa vision, moi, à titre personnel. Je pense que le populisme n'inclut pas forcément l'étatisme et que, plus que les idées, l'avenir du camp national se joue plutôt sur la forme. Et figurez-vous que c'est la réflexion que je me suis faite ce matin qui m'a donné envie de me prêter à un exercice que Julien Rochdy a fait extrêmement bien, à savoir une petite lettre à Jordan Bardella. Julien a écrit ça, un petit truc très intéressant. Il en a fait une vidéo sur YouTube que je vous invite à aller regarder, où il s'adresse à Jordan Bardella. Et moi, c'est sur des thématiques un peu différentes que j'aurai des questions pour Jordan. Voilà. Alors, mon cher Jordan, j'ai eu parfois des mots acerbes à ton égard. Et si tu les as lus ou entendus, tu t'es sans doute demandé pourquoi. Nous ne nous connaissons pas vraiment, après tout. Quoique nous ayons commencé à nous engager dans le même mouvement, le Front National de la Jeunesse, et que nous avons été responsables départementaux en même temps du Front National de la Jeunesse, alors toi, tu étais en Seine-Saint-Denis et moi en Maine-et-Loire. Longtemps, il est vrai, j'ai pris un peu trop à cœur ce qui concernait le FN, devenu ensuite le RN. C'est pour moi, tu le sais, une grosse partie de mon histoire familiale. Alors, tout en soutenant Marine Le Pen et sa stratégie de dédiabolisation dès 2011, j'ai été gêné par un certain nombre d'évolutions sur la famille, sur l'immigration, sur un certain nombre de sujets. D'un point de vue strictement électoral, j'avais tort. Je n'avais pas vraiment tort sur les personnes, sur la plupart des nouveaux venus qui entouraient Philippot et qui ont disparu avec lui, et qui, d'ailleurs, durant des années, ont hélas persécuté toute une frange ou populaire, ou catho, ou de droite du mouvement. Mais sur un certain nombre d'aspects, du strict point de vue électoral, j'avais tort, je le reconnais. D'ailleurs, sans croire à sa victoire, j'ai même pensé que Zemmour ferait plus de 10%. Alors, il est vrai que 4 ans après seulement, eh bien, ça fait un peu sourire. Mais tout de même, est-ce que passer de la dédiabolisation du camp patriote à sa centrification totale est une bonne idée? Je pense que ça vous aidera à gagner, c'est certain, mais comment appliquer ton programme, même édulcoré, fortement édulcoré, avec des gens comme Sébastien Chenu? Quel est le signal envoyé aux militants de terrain et aux classes populaires, notamment, si vous retirez l'investiture à des candidats simplement parce qu'ils dénoncent le grand remplacement? J'ai rencontré hier une dame dans un HLM qui a 72 ans, qui a 72 ans, qui est à la retraite, qui, au bord des larmes, m'a dit qu'elle était angoissée à l'idée de finir sa vie dans un immeuble en étant bientôt la seule blanche. Voilà. Elle, le grand remplacement, elle le vit au quotidien. Alors, comment gagner si vous faites la chasse à ceux qui dénoncent ce grand remplacement? Parce que, imaginons que tu sois président en 2027. Il va t'en falloir tout de même des gens comme le jeune Quentin pour continuer à braver les dangers et à faire du porte-à-porte pour défendre ton action pendant que la France insoumise mettra le pays à feu et à sang et agressera absolument tous les patriotes où qu'ils se trouvent. Dans un pays avec 50% d'abstentionnistes, les élections intermédiaires pourraient être autant de bérésina si tu n'es pas parvenu à satisfaire ne serait-ce que la moitié des immenses espérances que soulève ta victoire. Car sans implantation locale, pas de mobilisation électorale dans les coups durs. Or, tu le sais, l'exercice du pouvoir, c'est aussi l'exercice de la chute de la popularité. Et tu le sais, cette absence de mobilisation électorale et d'implantation, elle est particulièrement vraie dans l'ouest de la France, l'éternelle terre de mission où se joue, selon moi, l'avenir de ton parti et du camp national. C'est ici, en Bretagne et en Pays de la Loire, que vous avez la marge de progression à la fois la plus importante et la plus facile. Or, même dans des villes qui votent pour vous depuis longtemps, vous n'avez pas de liste aux élections municipales. Il y a 12 ans à Saumur, nous étions parvenus à avoir une élue municipale. Aujourd'hui, il n'y a même pas de candidat. C'est dommage parce qu'avec des militants de terrain, vous auriez à Saumur ou en Sarthe plusieurs députés. Parce que oui, même facilement diabolisables, les profils radicaux que vous avez écartés dans l'Ouest sont ceux qui s'engagent le plus localement, sans souci du candidaton. C'est eux et eux seuls qui peuvent mobiliser les électeurs, organiser des manifestations de soutien, etc. Or, c'est extrêmement important. Lors des législatives à l'issue desquelles tout le monde t'imaginait à Matignon, mon cher Jordan, j'avais prévenu à cette antenne que la gauche n'était pas morte, qu'elle avait un tissu social capable de créer la surprise. Alors tu me diras, désormais, le réel joue pour nous, les gens se détournent de plus en plus de la gauche. C'est évident. Mais ça n'est vrai que tant que tu n'es pas au pouvoir. Parce qu'une fois que tu y seras, si tu n'appliques pas un minimum de remigration, un minimum de mesures radicales, l'insécurité et l'islamisme ne baisseront pas et tes électeurs t'en voudront. C'est le paradoxe du chiracisme. Il rassure, il est populaire, mais une fois au pouvoir, il finit par décevoir et à force de naviguer en eau trouble. Alors, permets-moi de te donner une ou deux idées, même si je sais qu'on te trouvera bien impudent et que tu n'en tiendras sûrement pas compte, car tu vis dans un autre monde que le mien et puis que je n'ai pas fait de gros scores électoraux. Or, à ton niveau, c'est la seule chose qui compte, je le sais bien. Quelques conseils cependant, concentrez toutes vos forces sur l'ouest de la France, éliminez les gauchistes de votre parti, et ils sont nombreux. Sinon, à peine élus, ils te mettront des bâtons dans les roues. Cessez de céder aux pressions médiatiques, parce que certes, il faut rassurer les retraités, mais sans perdre les classes populaires et les actifs dont la colère est immense, et qui s'abstiennent hélas de plus en plus. Et puis, entre nous, tout miser sur les retraités, même avec l'allongement de la durée de vie, c'est assez court-termiste. Enfin, n'oublie pas qu'avec 50% d'abstentionnistes, le porte-à-porte et l'action de terrain sont fondamentaux. Et je ne sais pas ce qu'il en est dans toutes les fédérations de France, mais je peux te dire que dans l'Ouest, chez nous, ça n'existe plus. Voilà, Jordan, en résumé, pour redresser un pays qui est au bord de la faillite, qui est en faillite d'ailleurs, il vaut mieux des gens d'Action française que Sébastien Chenu. Et si la presse se met à valider ton discours, ce n'est pas vraiment que tu l'auras convaincu, mais plutôt que tu te seras mis à parler comme elle et donc que tu te seras coupé de ton électorat. Ce n'est pas le meilleur moyen d'empêcher toute concurrence à droite. Or, les immigrés sont de plus en plus nombreux. Les retraités meurent au fur et à mesure que le 21e siècle s'avance. Donc, mécaniquement, le centrisme que tu arbores te coûtera ton destin politique. Or, sans mépris de ma part, que sais-tu faire d'autre ?
Merci beaucoup, Jean-Yves Gana.
Avec plaisir.
Jean-Yves, évidemment, les critiques contre... Le Rassemblement National fuse un petit peu ces derniers temps. Le fait est qu'elle, d'un autre côté, ces critiques sont pas nouvelles et on les a toujours entendues et pourtant le RN progresse.
Mais j'ai bien dit que tout ce que je disais là n'était pas forcément efficient électoralement et que depuis 10 ans électoralement, tous les critiques du RN à la droite du RN se plantent. Maintenant, encore une fois. Quand on a le pouvoir, si on n'a pas un minimum de radicalité pour mettre en place ces mesures, eh bien, on disparaît. C'est l'histoire du chiracisme, c'est l'histoire du sarkozisme, c'est l'histoire d'un certain nombre comme ça d'engouements populaires à droite qui savaient soigner leur image, mais ont été incapables de gouverner. Or, pour gouverner et mettre en place des mesures radicales, encore faut-il avoir un entourage capable de le faire. Et j'ai conclu ma chronique là-dessus. Que les gens qui font la pluie et le beau temps médiatiquement au Rassemblement National seront les Sébastien Chenu et les Jean-Philippe Tanguy qui sont obsédés par la lutte contre l'extrême droite, eh bien, tant que ce sera comme ça, si le RN prend le pouvoir, il mènera des politiques centre ou centre-gauche.
Mais dans ce cas, effectivement, les Jean-Philippe Tanguy, les Sébastien Chenu font perdre beaucoup à la droite sur cet aspect, on va dire, qui lui permettrait de rester. Mais... sur tout le plan... là, vous parlez d'un héritage qui est presque plus un héritage d'idées. Mais par exemple, vous regardez sur le plan social. En fait, c'est des personnes comme ça qui ont aussi permis de conquérir toute une frange de l'électorat du Rassemblement National qui n'existait pas il y a...
Non, c'est pas vrai. L'électorat populaire du Rassemblement National existait sous Jean-Marie Le Pen. C'est Marine Le Pen qui a donné une impulsion sociale à consolider les positions du FN puis du RN dans les classes populaires. Mais c'est certainement pas les gens comme Jean-Philippe Tanguy ou Sébastien Chenu, dont la sociologie même n'a rien à voir avec leur électorat, qui ont permis ça. Parce qu'à la réalité, il y a une différence dans l'électorat populaire entre avoir des positions sociales ou avoir des positions radicales sur l'immigration qui attirent l'électorat populaire et se plier au politiquement correct sur les sujets sociétaux, sur la lutte contre l'extrême droite, etc. Mais c'est deux choses distinctes.
Et d'un autre côté, désolé, hein, je me fais l'avocat du RN, mais c'est pour vous mettre un petit peu au défi de la réponse, mais dans le fond, est-ce que le RN a une responsabilité totale là-dedans, en sachant que faut pas oublier que si la gauche a une telle ascendance morale et, on va dire, pseudo-intellectuelle de manière générale, c'est aussi parce qu'il y a absolument pas d'appareil derrière, ou en tout cas, il y en a un, mais qui est assez faible encore comparé à celui de la gauche, qui permet justement, eh bien, de tout justifier. Même on pourrait prendre la question des crimes de l'extrême droite et des crimes de l'extrême gauche qui a beaucoup fait parler récemment. Pardon, mais on a mis 10 jours avant d'avoir une réponse faite par un journaliste. Paul Sugy a fait un superbe travail là-dessus, mais 10 jours avant d'avoir une réponse faite par un journaliste. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant, cette critique.
Oui, mais en fait, un parti politique qui lâche trop facilement ses militants laisse libre cours au récit médiatique de la gauche. Et à l'inverse, on l'a vu avec la séquence lors de la mort de Quentin, l'extrême gauche et la France insoumise qui refusent de condamner clairement la Jeune Garde finissent par imposer leur récit médiatique. Alors, je n'appelle pas à être d'aussi mauvaise foi, je n'appelle pas à être aussi radicaux et méchants et bêtes que le sont les gens de la France insoumise, mais peut-être y a-t-il un juste milieu entre le fait de baisser culotte systématiquement et celui de d'être de mauvaise foi et bête et méchant. Ouais.
Mais d'un autre côté, alors il y a aussi une question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce que on va dire les militants identitaires ou nationalistes ou autres ont vraiment, enfin je veux dire, apportent vraiment peuvent vraiment apporter au Rassemblement national. Et on a vu beaucoup d'entre eux se tourner plutôt vers Reconquête, par exemple, en 2022.
Oui, tout à fait. Mais ils peuvent apporter parce qu'ils peuvent être ceux qui vont aller dans les quartiers populaires, dans les campagnes, faire du porte-à-porte, etc. La radicalité idéologique est aussi un moteur d'action. Mmh. Il y a un certain nombre de militants radicaux qui sont objectivement infréquentables ou pas assumables d'un point de vue électoral. Il y en a d'autres qui le seraient et qui pourraient au moins, même par cynisme, être utilisés pour mobiliser l'électorat. Je rappelle...
Vous pensez à vous, Jean-Eude ?
Non, mais moi, je m'en fous, je suis cramé, moi. Moi, je suis cramé. Je n'ai pas vocation à militer au Rassemblement national, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des militants identitaires ou nationalistes qui sont moins sulfureux, peut-être, et qui pourraient être utilisés, même de manière cynique, pour mobiliser l'électorat.
Voilà. On est très heureux.
Si le RN prend le pouvoir, il y aura des élections intermédiaires. Et s'il n'y a pas de gens pour faire du porte-à-porte et défendre le bilan qui sera forcément décevant, parce qu'on déçoit à mesure qu'on suscite l'espérance, eh bien, s'il n'y a pas des gens pour faire ça, ce sera une bérésina.
Eh bien, écoutez, on est très heureux de recevoir des personnes aussi sulfureuses que vous, Jean-Eude, pour porter ces mots. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, on vous souhaite aussi une bonne campagne municipale, parce qu'on imagine que vous êtes un petit peu au cœur de tout ça.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir notre nouvelle chroniqueuse, Ludovine de la Rochère. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors je rappelle que vous êtes présidente du syndicat de la famille et que aujourd'hui, eh bien, vous vouliez nous parler de l'euthanasie.
Oui, absolument. Alors, un petit point de situation dans un contexte tendu. Comme les auditeurs donc, de Radio Courtoisie le savent, les deux propositions de loi sur la fin de vie ont été adoptées la semaine dernière à l'Assemblée nationale. L'une porte sur les soins palliatifs, l'autre sur le suicide assisté et l'euthanasie. Alors à la suite de cela, j'ai entendu beaucoup de propos découragés, tels que « Nous avons adressé les uns et les autres beaucoup d'alertes et de courriers aux députés, mais ils n'ont rien entendu. » Je tiens donc à souligner, pour commencer, que le parcours législatif de ces propositions de loi n'est pas terminé. Après cet examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale, doit suivre en effet l'examen en seconde lecture au Sénat. Puis, comme les résultats seront a priori différents entre les deux assemblées, le Premier ministre devra alors convoquer une commission mixte paritaire, une CMP, composée de députés et de sénateurs. Mais, comme ils ne s'entendront sans doute pas en CMP, tant les positions diffèrent entre les deux assemblées, donc, il y aura très probablement une troisième lecture à l'Assemblée nationale, puis une troisième lecture au Sénat. Et cela devrait s'achever enfin par une quatrième lecture à l'Assemblée nationale, celle-ci ayant le dernier mot suivant l'expression consacrée. Comme vous le comprenez, le processus n'est donc pas du tout terminé. La situation est très inquiétante, nous sommes d'accord, mais il n'est pas question de baisser les bras. Je vous propose par ailleurs de rentrer davantage dans le détail des votes pour savoir si, oui ou non, toutes nos alertes et courriers ont eu de l'effet sur les députés. La proposition de loi suicide assisté et euthanasie a donc été adoptée par 299 voix pour et 226 voix contre. Cependant, entre la première lecture de mai 2025 et cette seconde lecture de février 2026, les votes ont évolué. 27 députés de plus ont voté contre. De 57 abstentions en première lecture, l'Assemblée est descendue cette fois-ci à 37. Au total, en première lecture, la proposition de loi avait été adoptée avec 106 voix de plus pour les pour. Cette fois-ci, elle a été adoptée avec 73 voix de plus pour les pour. Pardonnez-moi de ces chiffres, mais l'analyse
oui.
est vraiment nécessaire. Autrement dit, les interventions conduites en nombre considérable par des associations auxquelles se sont joints de très nombreux Français ont bien eu un effet majeur. 33 députés ont changé de position, ce qui est considérable, mais pas encore suffisant, hélas.
Alors, et politiquement, comment est-ce que les groupes politiques se sont positionnés et comment ont-ils évolué ?
Alors, il est en effet nécessaire pour la suite de savoir comment ont voté les groupes politiques. Voici donc ce qu'il en est en allant du groupe le plus opposé à l'injection létale au groupe le plus favorable. Du côté UDR, donc les ciotistes, il y a eu 17 députés qui ont voté contre sur 17 députés. Pour les Républicains, 42 députés ont voté contre et 5 ont voté pour. Au RN, il y a eu 102 votes contre et 17 votes pour. En ce qui concerne Horizon, Modem et Liotte, ils sont très divisés, proches d'une moitié pour et d'une moitié contre. Ensemble pour la République, donc Renaissance, la majorité présidentielle, enfin le parti présidentiel plutôt, la majorité a voté pour. Et du PS au PC, les rares votes contre ou abstention sont les exceptions qui confirment la règle. Presque tous ont voté en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie. Alors parmi ceux qui ont réfléchi entre les deux lectures, comme ils l'ont indiqué, il y a eu par exemple Guillaume Bigot au RN, qui est passé d'un vote pour en première lecture à un vote contre en deuxième lecture. Ou encore pour le même groupe, Théo Bernard, qui est passé d'un vote favorable à l'abstention cette fois-ci. Pour prendre un autre exemple, dans le groupe Ensemble pour la République, le parti présidentiel donc, la députée Olivia Grégoire est passée de l'abstention à un vote défavorable. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait compris, au fil des mois et des débats de deuxième lecture, que la proposition de loi ouvrait à toutes les dérives. Et même que ces dérives étaient déjà comprises dedans. Je dois dire aussi qu'en analysant les votes, j'ai constaté que des députés dont le vote allait à l'opposé de leur groupe en première lecture n'étaient pas là cette fois-ci. Des absences qui montrent que la pression monte nettement au fil du temps.
Alors, la proposition de loi sur les soins palliatifs, pour le coup, de son côté, quel a été le résultat de ce second examen pour les députés ?
Alors, le texte sur les soins palliatifs, lui, a été adopté à l'unanimité, en l'occurrence à 491 voix pour et aucune contre. Mais je remarque que 69 députés, tout de même, ont voté l'abstention. Ils sont membres, en l'occurrence, des groupes LFI et écologistes. En ce qui concerne cette proposition de loi, les discussions en séance publique l'ont modifiée à la marge. Sans en transformer l'architecture générale, elle vise donc à développer les soins palliatifs, alors que près de 20 départements en France en sont encore dépourvus. Elle prévoit aussi la création de maisons d'accompagnement, intermédiaires entre le domicile et l'hôpital, une proposition à suivre de près, puisqu'elle pourrait être détournée de son objectif de soins palliatifs, ainsi qu'un financement de 1,1 milliard d'euros d'ici 2034. C'est en réalité modeste comme budget sur autant d'années et fragile, puisque ce budget fait partie de celui de la Sécurité sociale, lequel fait l'objet de votes au Parlement chaque année. Vous savez, c'est la fameuse proposition de loi de financement de la Sécurité sociale, le PLFSS. Autrement dit, les moyens annoncés pourraient tout à fait être revus à la baisse en cours de route. Quant à l'accès aux soins palliatifs pour tous les malades qui en ont besoin, l'État est déjà supposé l'assurer depuis la loi du 9 juillet 1999, laquelle a été renforcée en 2002, 2005 et 2016. Ainsi, vous l'avez compris, cette proposition de loi visait d'abord à cautionner l'autre, celle qui concerne l'injection létale. Alors pour conclure, et comme vous vous y attendez, puisque je vous ai démontré que nos interpellations ont du poids, j'appelle à rester mobilisés pour défendre les plus vulnérables d'entre nous et pour protéger les fondements de notre civilisation. Ces deux textes seront examinés en effet très bientôt, en seconde lecture au Sénat, en l'occurrence en commission des affaires sociales, à partir du 25 mars et à partir du 1er avril en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle. Profitons donc de ce temps et des vacances pour ceux qui ont cette chance pour écrire aux sénateurs en leur demandant de vider de sa substance la proposition de loi sur le suicide assisté et l'euthanasie et pour les inviter au passage, bien sûr, à adopter celle sur les soins palliatifs. Pour cela, je vous donne rendez-vous sur le site du syndicat de la famille où tous les contacts des sénateurs sont disponibles.
Merci beaucoup, Ludovine de la Rochère. Restez mobilisés, chers auditeurs.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque jeudi, Jean Messia. Bonjour Jean, j'espère que vous allez bien.
Bonjour Alexandre, bonjour aux auditeurs, ça va très bien, et vous-même ?
Eh bien écoutez, pas trop mal, on se débrouille bien dans cette actualité. Alors, l'actualité, c'est donc un sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qu'on a un peu traité quand même ces derniers jours et sur lequel on voulait tous deux revenir, c'est évidemment la question de l'Iran. Alors, la première question qui se pose évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut lire cette attaque de l'Iran par Israël et les États-Unis ? On imagine, Jean Messia, que vous placez ça dans le contexte du fameux choc des civilisations d'Huntington.
Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, on entend beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, d'analyses, d'approches sur l'écume du conflit, sur le nombre de bateaux coulés, le nombre d'objectifs touchés, etc. Bon, j'allais dire cette bonne guerre, c'est le cas de le dire. Mais il y a plus profondément une approche à avoir, une analyse à avoir sur la signification profonde, la lame de fond, si vous voulez, qui vient expliquer en quelque sorte le sens profond de ce conflit. Je pense qu'il y a évidemment un choc des civilisations larvé, au sens de Huntington. Chez Reconquête, on en a beaucoup parlé. Nous sommes les seuls d'ailleurs à porter ce thème. Le choc des civilisations, il n'est évidemment pas entre des civilisations qui sont étanches, au sens où il y a une civilisation arabo-musulmane qui serait sur ces territoires et une civilisation occidentale qui serait sur ces territoires, mais le choc des civilisations est rendu beaucoup plus, inquiétant dans la mesure où désormais, ceux qui portent ces civilisations, c'est poreux, c'est-à-dire que quand vous avez un pays comme la France qui a entre 10 et 15 millions de musulmans, le choc des civilisations, il est aussi sur notre territoire en quelque sorte. Et d'ailleurs, vous avez remarqué la prudence avec laquelle Emmanuel Macron analyse le conflit actuellement en Iran, évidemment que il n'est pas aussi volontaire, aussi enjoué, aussi galvanisateur et galvanisant que pour l'Ukraine.
Oui, mais d'un autre côté, pardon, Jean Messia, la situation ne se pose pas uniquement dans des termes où effectivement on a effectivement des peuples étrangers sur le sol européen, mais aussi dans l'autre sens, pardon, mais les alliances, les bases militaires américaines dans tout le Moyen-Orient font que on se retrouve à avoir des pays comme le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, qui se rangent de facto dans un camp occidental, alors que ce sont des peuples musulmans, chiites ou sunnites d'ailleurs, mais contre l'Iran chiite.
Votre question est excellente et
merci.
J'espère que ma réponse le sera tout autant. Écoutez, non, on ne peut pas voir ça sous le même angle. C'est-à-dire que les bases américaines qui sont dans les pays que vous avez cités, qui sont effectivement des pays arabes, doivent être appréhendées selon le prisme des intérêts. Vous savez, le général de Gaulle disait les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les pays du Golfe sont des pays sunnites, de l'islam sunnite. En face, il y a l'Iran chiite. Il y a une éternelle conflictualité, un éternel antagonisme entre les chiites et les sunnites. Et effectivement, les pays musulmans chiites payent, parce que c'est ça, ils payent des bases aériennes américaines pour être protégés de l'ennemi ancestral qui est l'ennemi chiite. Mmh. Ça n'a rien à voir avec des millions. Si vous voulez, le parallèle, ça serait qu'il y ait des millions de citoyens américains qui s'installeraient dans ces pays, dont des millions auraient la nationalité, qui ne seraient pas intégrés à ces pays. Ce n'est pas du tout le cas. Là, ce sont des emprises extraterritoriales, militaires, payés par ces pays pour garantir leur protection. C'est comme si vous payez une alarme ou vous payez des gardes du corps.
Mais
ces gardes du corps ne sont pas de votre famille, par définition.
Ça signifie que donc, en fait, la lecture du bloc des civilisations, du choc des civilisations est un petit peu compliquée dans ce sens-là, parce que, si mes souvenirs sont bons, Huntington va justement placer l'Iran dans la même sphère civilisationnelle que des pays comme effectivement les pays arabes. Alors que ce qu'on observe d'une certaine façon, c'est, j'ai plus l'impression de mon côté qu'on observe une logique d'empire dans laquelle effectivement il y aurait, on va pas dire un empire arabe, mais en tout cas une coalition arabe. D'un autre côté, un empire turc un petit peu au nord, un empire iranien donc à l'est. Est-ce que c'est vraiment de civilisation qu'on parle ou est-ce que c'est pas plutôt des logiques impérialistes ?
Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que il faut lire ça, si vous voulez. On peut appeler d'ailleurs cette guerre l'empire contre-attaque. C'est-à-dire l'empire occidental, en l'occurrence. On peut dire l'empire contre-attaque. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez bien que l'Occident, si on prend une analyse un peu de longue période, l'Occident s'affaiblit depuis des décennies. L'Occident perd à la fois sur le terrain démographique, sur le terrain économique, sur le terrain civilisationnel. Il y a une perte des valeurs occidentales, une perte d'attrait aussi des valeurs occidentales à l'extérieur. Et cette perte de l'Occident, en tout cas cet affaiblissement, cet affaissement de l'Occident, il se voit dans nos pays. Regardez ce qu'est devenu aujourd'hui la France par rapport à ce qu'elle était il y a un demi-siècle. Mmh. Mais ce n'est pas propre à la France, c'est aussi aux États-Unis. Et donc je pense que si vous voulez, ce qu'a voulu faire Trump, qui est quand même le représentant d'un paradigme idéologique identitaire, souverainiste, de retour de l'Amérique, de « Make America Great Again », etc. Ce qu'il veut, c'est de montrer en quelque sorte, alors cette guerre-là en est un exemple, mais pas unique, il veut signifier en fait que l'Occident est loin d'être mort, que la puissance occidentale est loin d'être émoussée, et c'est aussi un signal envoyé en quelque sorte à toutes les autres civilisations avec lesquelles l'Occident est en choc. Alors vous me direz, c'est pas nouveau, les États-Unis ont toujours intervenu en Irak, en Afghanistan, etc. C'est quand même pas pareil là, parce que là, si vous voulez, les intérêts américains, on va dire, n'ont pas été directement menacés, en quelque sorte. Et on voit bien que Trump, à travers l'attaque de l'Iran, veut donner une sorte de leçon, y compris d'ailleurs à ses alliés, pour montrer qui est encore le chef et qui est encore le patron, et que les suprémacismes, si vous voulez, non occidentaux, eh bien, doivent quand même aujourd'hui se rendre à l'évidence du plus grand pays occidental, c'est-à-dire les États-Unis, qui est encore le maître du jeu. Voilà. Et moi, je considère que dans cette guerre civilisationnelle, effectivement, Israël, qu'on le veuille ou non, et n'en déplaise à certaines personnes qui pensent que Israël est un pays exorbitant du droit commun parce que c'est les Juifs, parce que c'est je ne sais pas quoi, moi je ne rentre pas dans ce délire, Israël est aux avant-postes de la civilisation occidentale dans cette région.
Mais alors, et donc, d'ailleurs, Jean Messia, pardon, mais je vais répondre, je vais rebondir directement sur cette question d'Israël, mais dans le fond, parmi les critiques qui vous sont souvent formulées, il y a celle de... on va dire, défendre moins les intérêts français que les intérêts américains ou israéliens dans les conflits géopolitiques. Et en l'occurrence, la France n'a aucun intérêt à protéger Israël ou alors à protéger même des pays arabes dans cette région a priori. Et d'une certaine façon, pourquoi est-ce qu'on devrait soutenir, même ne serait-ce que moralement, des opérations extérieures ainsi, qui sans doute profitent à Israël parce que Israël comme ça se débarrasse de sa menace mortelle qu'est l'Iran, et peut-être profite aux États-Unis qui peuvent jouer sur les cours du pétrole aussi, parce qu'il y a cette question du pétrole iranien. Mais dans le fond, les intérêts français, en l'occurrence, ne sont pas, vous parliez d'intérêts il y a quelques minutes, ne sont pas alignés sur les intérêts d'Israël et sur les intérêts américains.
Certainement pas. Ils ne sont pas alignés sur les intérêts israéliens ou les intérêts américains, mais le problème, si vous voulez, c'est que vous avez, votre logique est une logique organique, c'est-à-dire une logique d'acteur. Moi, ma logique, elle est idéologique. Je veux dire, il faut quand même le rappeler, l'idéologie qu'anime le Hamas, l'idéologie qui est celle même du Hezbollah, d'une certaine façon, l'idéologie donc qui est celle de l'Iran, puisqu'on dit que le Hamas et le Hezbollah sont les proxys de l'Iran, donc ils sont irrigués par cette idéologie impérialiste islamique. Je rappelle quand même que l'Iran est responsable de l'attentat du Drakkar à Beyrouth, qui a coûté la vie à plus de 80 de nos légionnaires, excusez du peu. L'Iran est responsable des attentats de la rue de Rennes. Vous vous en souvenez pas parce que vous êtes trop jeune, mais moi je l'ai vécu à Paris en 1986. L'Iran est responsable de la prise d'otages de Français dont certains sont morts dans les geôles du Hezbollah dans les années, à la fin des années 80 et au début des années 90. Donc, effectivement, si on prend l'idéologie, si vous voulez...
Pardon, mais Jean Messia, je suis désolé de vous couper, mais sans vouloir faire du jeunisme, tout ça, ça fait quand même 30 ans. Plus.
Sans doute, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'idéologie, le totalitarisme islamique, qui est une hydre à plusieurs têtes, c'est quand même cette idéologie-là qui nous a frappés, qui continue à nous frapper sur notre territoire depuis maintenant plusieurs années. Les attentats de 2015, ils sont inspirés par la même idéologie que celle du Hamas.
C'est l'État islamique.
C'est pas l'État islamique, c'est le Hamas. Le Hamas, ce sont les frères musulmans. Je vous signale quand même que les frères musulmans, ce sont eux qui ont préparé l'ayatollah Khomeini à sa prise de pouvoir en Iran en 79. Donc si vous voulez, le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, historiquement, l'Iran et les pays arabes, la civilisation perse et la civilisation arabe sont des civilisations antagonistes. L'islam chiite et l'islam sunnite sont antagonistes. Mais le problème, c'est que vis-à-vis de l'ennemi israélien, vis-à-vis de l'ennemi américain et plus largement vis-à-vis de l'ennemi occidental, ces idéologies se sont rejointes et coopèrent. C'est-à-dire que d'ailleurs, la stratégie américaine et israélienne est claire. Pourquoi attaquent-ils aujourd'hui l'Iran et ne l'ont-ils pas attaqué il y a un an ? C'est parce qu'ils ne pouvaient pas mener une guerre sur plusieurs fronts. Donc là, ça a d'abord commencé par l'élimination du Hamas, puis l'élimination du Hezbollah, et maintenant l'élimination de l'Iran. On peut quand même convenir que la fin du Hamas, la fin du Hezbollah et la fin de l'Iran n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la France. On peut être d'accord là-dessus.
Non, mais sur le Hamas et le Hezbollah, je vous rejoins tout à fait, bien sûr. D'un autre côté, je suis désolé, mais... une critique qui est souvent faite, et d'ailleurs même beaucoup d'analystes, qu'ils soient de droite ou de gauche, partagent cette idée, c'est que la fin du régime iranien tel qu'on le connaissait de Khamenei, Khamenei est mort, mais son régime, la fin de son régime n'est pas du tout actée. Et ensuite, dans le cas où effectivement ce régime touchera à sa fin, pardon Jean Messia, mais ça ferait énormément évidemment d'instabilité dans la région. On sait qu'il y a des minorités azéries, des minorités baloutches, d'autres minorités, les Kurdes aussi. D'un autre côté, ça peut tout à fait mener à des vagues migratoires iraniennes.
Alors moi, je ne suis pas sûr de ça. Alors en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en gros, on pourrait avoir un scénario à l'irakienne.
Oui.
Alors ce n'est pas tout à fait pareil, parce que l'Irak de Saddam Hussein, c'était une dictature, je dirais, avec une seule personne. Donc une fois que la personne au sommet est éliminée, c'est tout le régime qui s'effondre, puisque plus rien ne tient. Bon, l'Iran, c'est pas ça. L'Iran, c'est un système totalitaire. En gros, si vous voulez, pour que les auditeurs comprennent, c'est que l'Irak de Saddam Hussein était un peu comme l'Allemagne hitlérienne. Il y a un Hitler, une fois qu'Hitler est mort, toute l'Allemagne nazie disparaît. Alors que l'Iran, si vous voulez, de Khamenei, c'est plus l'Union soviétique. Oui. C'est-à-dire que c'est un système, c'est un État totalitaire qui ne dépend pas d'une seule tête, qui a les gardiens de la Révolution, qui a les autorités religieuses, c'est systémique, si vous voulez. Et donc, il ne suffit pas, d'ailleurs, on l'a vu, quand Khamenei est mort, le système est toujours là. Même quand on a décapité une partie des leaders des gardiens de la Révolution, le système ne s'est pas effondré. Ouais. Alors que, rappelez-vous, en 2003, le jour où on a annoncé la mort de Saddam Hussein, l'Irak s'est effondré, laissant, effectivement, ouvrant la porte au bazar qu'on a
mais,
vu.
Mais alors, ce qu'on doit attendre, donc, c'est de la guerre civile en Iran.
Non, je ne pense pas, justement, parce que je crois que les institutions iraniennes sont plus fortes. Je pense que la civilisation perse et le peuple iranien est plus cohésif que l'Irak. Vous savez, l'Irak, il y avait 20% de sunnites, dont Saddam Hussein était le représentant, qui persécutaient en quelque sorte 80% de chiites, de kurdes, etc. On n'est pas dans cette configuration-là. Les Iraniens restent quand même majoritairement perses, même s'il y a des minorités. Et si vous voulez, avant, il y a une sorte d'Iran éternel qui date de la civilisation perse, de l'empire perse, etc. Il y a une permanence iranienne qui fait d'ailleurs que même l'ayatollah Khomeini, quand il a pris le pouvoir, etc., rappelez-vous, quand le Shah d'Iran s'est enfui et que l'ayatollah Khomeini n'était pas encore rentré en Iran, le pouvoir était vacant. C'est-à-dire que si bordel il devait y avoir, c'était à ce moment-là qu'il devait y avoir des massacres, des guerres tribales, interethniques, etc. Or, on a bien vu en 79 que pendant plusieurs mois où le pouvoir a été vacant, l'Iran a tenu. Et lorsque l'ayatollah Khomeini s'est installé, il n'a fait que, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu comme l'Union soviétique et la Russie. Ce sont des grandes civilisations qui ont des permanences, qui ne dépendent pas de l'écume des pouvoirs et qui savent en quelque sorte se maintenir malgré des pouvoirs défaillants ou même une absence de pouvoir.
Alors, je comprends votre raisonnement, mais je vous trouve un petit peu optimiste parce que d'une certaine façon, on a vu quand même les horribles répressions qui ont eu lieu suite aux manifestations en Iran. On parle de 30 000 morts qui auraient été opérées par le régime contre la population iranienne. Il y a évidemment la question des Pasdaran, des gardiens de la révolution. Déjà, on ne sait pas. Si, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas si Donald Trump souhaite un changement de régime ou non. Et, d'un autre côté, on ne sait pas si changement de régime il y a. On voit mal les gardiens de la Révolution laisser tranquillement le pouvoir à ces anciens manifestants. Et on voit même mal, justement, le peuple iranien laisser tranquille les gardiens de la Révolution qui ont quand même massacré, il y a ne serait-ce qu'un mois, des dizaines de milliers d'Iraniens.
Ben, vous avez raison, l'idée c'est quoi? L'idée c'est, alors évidemment, il est assez peu probable qu'un changement de régime n'intervienne que par les airs. Bon, ça n'a échappé à personne. L'idée c'est de bombarder les infrastructures idéologiques, militaires et institutionnelles du régime islamique iranien pour, briser les dents de sa résistance et faire en sorte que les manifestants, ou en tout cas, les contre-pouvoirs puissent s'exprimer sans crainte justement d'être massacrés comme ce fut le cas ces derniers mois. Donc affaiblir, voire éliminer les gardiens de la Révolution, affaiblir toutes les forces militaires, les forces de police, etc., qui sont les forces de répression du régime en bombardant leur centre névralgique, de telle sorte de créer, de libérer en quelque sorte la rue iranienne des dangers qui permettent de la prendre. Voilà la stratégie pour l'instant. Je ne sais pas si ça va réussir, mais la stratégie, c'est ça. Parce que, en fait, Donald Trump ne veut pas, je pense, en tout cas dans ses déclarations et les déclarations de ses ministres, il préfère que ce soit les Iraniens qui prennent leur destin en main. C'est-à-dire que les frappes actuellement en cours ont pour seul objectif d'écraser les forces de répression iraniennes pour libérer le peuple iranien des chaînes islamiques pour lui permettre, effectivement, de se prendre en main, de choisir son gouvernement. Alors, il n'est pas exclu, et loin de là, je pense que c'est même prévu qu'il y ait un gouvernement de transition. On parle du fils du Shah, qui d'ailleurs est quelqu'un qui est envisagé, il le dit lui-même d'ailleurs, comme un élément de transition du pouvoir en charge d'organiser l'Iran d'après, l'Iran démocratique. Mais tout ça ne sera possible que si l'affaissement et l'affaiblissement du régime sont suffisants pour permettre aux manifestants et à la transition de se faire sans nouveau bain de sang.
Il nous reste un peu plus d'une minute, Jean Messia. Dernière question pour une réponse rapide. Est-ce que vous pensez que ces 20 dernières années, on a vu que les opérations militaires extérieures des Occidentaux se soldaient rarement par des conséquences positives? Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir quand même pour ce genre d'opérations militaires extérieures?
Je pense que les cas de figure sont très différents. Je pense qu'en Iran, le régime, d'après tous les sondages, le régime iranien actuel n'est plus soutenu que par 15 à 20% de la population. Donc évidemment, quand vous avez 80% de la population qui rejette le régime, il y a fort à parier que si le régime chute, la population se choisira un autre leadership, ce qui n'était pas forcément le cas des autres pays qu'on a attaqués. Regardez ce qui s'est passé en Libye, regardez ce qui s'est passé en Irak. Évidemment, là, parce que c'était des dictatures unipersonnelles, les choses ne se sont pas passées comme ça risque de se passer en Iran. Donc je dirais qu'il n'y a pas de règle générale, et c'est vraiment du cas par cas. Je pense que ça peut donner quelque chose de positif en Iran, à la condition que le régime puisse être affaibli et surtout que la population iranienne, le peuple iranien, se lève de sa léthargie, se lève de sa peur légitime, après 47 années de dictature, pour enfin prendre la main de la liberté qui leur est tendue depuis l'extérieur.
Et merci beaucoup pour cette prise de position, Jean Messia, et merci d'avoir accepté un petit peu le jeu du débat. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, peut-être sur ce même sujet ou sur d'autres.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Ligne droite. La chronique de Lorient Simplifié.
Et pour cette chronique de Lorient Simplifié, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin.
Bonjour Alexandre de Galzin.
Alors, sans surprise, vous nous parlez aujourd'hui du nouvel embrasement au Proche-Orient.
Et oui, comment faire autrement quand le monde entier ne parle plus que de cette nouvelle guerre israélo-américaine contre l'Iran? Depuis samedi, le président américain Donald Trump a lancé son immense armada navale et aérienne à l'assaut de la République islamique d'Iran dans une opération nommée pompeusement « Fureur épique ». Entre nous, j'ai bien du mal à trouver quoi que ce soit d'épique dans ce déferlement, tant la disproportion des forces en présence est immense. Car ne nous trompons pas, comme en 1991 et en 2003 pour l'Irak, les experts se succèdent sur les plateaux pour décrire avec force grandiloquence la puissante armée iranienne. Souvenez-vous, en 1991, bon, vous n'étiez pas né, mais quand même, les mêmes propagandistes qualifiaient l'armée irakienne de troisième armée du monde. Car pour que la victoire israélo-américaine soit belle, il faut que l'ennemi ne soit pas trop misérable. D'ailleurs, ce n'est pas la seule analogie que j'ai relevée. Je repense aux grandes déclarations de Donald Trump, le président de la paix, le chantre de la non-intervention et de l'Amérique d'abord, celui qui se rêvait prix Nobel de la paix. Eh bien, tout le monde l'a oublié, mais George Bush avait fait campagne sur ce même thème de l'isolationnisme et de la non-intervention en 2000. Nous savons ce qu'il en était advenu. Trump 2 semble donc bien reparti sur les mêmes bases.
Oui, pardon, et donc comme en 2003, la guerre d'agression américaine semble faire la quasi-unanimité parmi les États.
Oui et non. Il est vrai que peu de voix s'élèvent fortement, tant la sidération est forte et tant la crainte de subir le même sort est peut-être présente. La Chine est bien silencieuse alors même que l'Iran était un de ses principaux fournisseurs de pétrole. La Russie, toujours trop occupée en Ukraine, s'est mollement récriée. Le Royaume-Uni, comme toujours, a immédiatement suivi son donneur d'ordre et a envoyé ses avions. Quant à l'Union européenne, comme de coutume, ses membres expriment autant de nuances qu'il y a d'États membres. Évidemment, le président français a brillé par le nini, bien loin du non ferme et tonitruant de Jacques Chirac en 2003. Cette fois, c'est l'Espagne qui refuse clairement l'usage de ses bases aériennes, provoquant l'ire de Donald Trump, qui tour à tour menace le recalcitrant de rompre tout accord commercial, d'ailleurs devant le chancelier allemand Friedrich Merz, qui n'a absolument pas bronché, voire même, je ne sais pas si vous avez entendu ça, d'utiliser les dites bases aériennes de force en y envoyant ses avions sans autorisation, ce qui équivaudrait ni plus ni moins à une invasion de l'Espagne, qui est pourtant un allié américain.
Alors, c'est vrai que c'était pas tout à fait prévu dans le bingo 2026, cette invasion de l'Espagne. Quelles sont les conséquences de donc cette guerre sur les autres États du Proche-Orient ?
Alors, comme c'était à craindre, l'Irak et le Liban payent le prix fort. En Irak, les tensions sont à leur comble, notamment au nord, avec des bombardements nourris la nuit dernière contre la base américaine d'Erbil, la capitale de la région autonome kurde. Bombardements par des milices chiites irakiennes. Des zones d'habitation ont même été touchées, ainsi que le complexe de l'église chaldéenne Saint-Pierre et Saint-Paul. Si le premier ministre irakien al-Soudani a déclaré que l'Irak ne se laisserait pas entraîner dans cette guerre, les tensions entre Kurdes et Arabes chiites sont encore montées d'un cran avec les déclarations américaines autour de la fourniture d'armes à des milices kurdes iraniennes pour envahir le nord-ouest de l'Iran. Au Liban, malgré la réprobation générale, y compris des tribus chiites et du Hamal, l'autre grand parti chiite, le Hezbollah a repris ses lancers de roquettes contre Israël qui n'attendait que ça. L'axe chiite Hamal-Hezbollah a, semble-t-il, vécu, rebattant complètement les cartes de la politique libanaise, alors que le gouvernement israélien déclare que la frange militaire du Hezbollah est désormais hors la loi. Israël a intensifié ses bombardements, qui n'avaient d'ailleurs jamais vraiment cessé en dépit du cessez-le-feu, allant même jusqu'à bombarder sans avertissement un hôtel rempli de déplacés à Beyrouth, faisant 11 morts. Par ailleurs, Israël a appelé à l'évacuation totale d'une zone importante au sud du pays, provoquant le déplacement de dizaines de milliers de civils, dont de nombreux chrétiens, civils qui parfois venaient de revenir il y a peu de temps dans leur village. Des hauts responsables israéliens parlent déjà d'occupation, voire d'annexion, de territoires libanais représentant 10 à 20% de la superficie du pays.
Et bien, y en a qui perdent pas le nord. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard.
Merci, Alexandre de Galzin.
Et tout de suite, nous allons passer à la revue de presse de Gilles Brochard.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Arnaud, bonjour cher Alexandre. À l'heure des premiers bilans, Le Point qui sort aujourd'hui publie un dossier intitulé « Le livre noir des mollahs ». Dans la catégorie « Tyrannie », la mort du guide suprême Khamenei annonce le crépuscule d'un régime à l'existence ponctuée de massacres fondés sur la terreur, la corruption et la coercition. François-Guillaume Lorrain raconte 47 années d'abomination qui commença par une forme de libération à l'arrivée de l'ayatollah Khomeini qui avait tout promis jusqu'à une alliance avec la gauche et les communistes. La première année, écrit Lorrain, la répression s'abat surtout sur les cadres de l'ancien régime du Shah, leurs familles, y compris celles qui ont fini par se rallier. Yves Bomati, co-auteur de l'Iran face à ces défis, rappelle que la violence est la même que ces derniers mois. On arrache les yeux des victimes, on les traîne dans la rue, on les torture. Il n'y a pas eu de gradation. La violence est dans l'ADN de ce régime. On parle alors d'un certain Sadegh Khalkhali, chef des tribunaux révolutionnaires, sorte de Fouquier Tinville iranien qui n'hésite pas à exécuter lui-même les accusés. Viscéralement antimonarchique, cet Azéri d'origine, expansionnaire d'un hôpital psychiatrique, fait détruire le mausolée de Reza Shah, tente d'en faire de même avec Persépolis ou le tombeau de Cyrus le Grand, qu'il avait qualifié de sodomite dégénéré. Ses cibles sont notamment les Kurdes iraniens qui ont cru pouvoir demander leur autonomie à la faveur de la révolution. Il instaure un régime de la peur, de la délation et de l'autocensure. L'année 1979 a vu naître une institution qui va prospérer, les gardiens de la révolution, les fameux Pasdaran, une milice de 5000 hommes qui fait contrepoids à une armée régulière, peu fiable, pour sécuriser un pays encore très instable. Une garde de militants purs et durs, assez lettrés, qui avaient fréquenté des camps d'entraînement clandestins. Un vrai dragon à 7 têtes, raconte Emmanuel Razavi, interviewé pour son livre « La face cachée des mollahs ». La première est militaire, la deuxième répressive, la troisième mafieuse, la quatrième terroriste, la cinquième financière, la sixième est liée aux affaires de missiles et au nucléaire, et la septième est connectée à la mafia russe. Ces monstres forment un syndicat du crime, une énorme organisation qui détient la moitié des richesses et du produit intérieur brut de l'Iran, avec à sa tête un parrain, l'ayatollah Ali Khamenei. Après 8 ans passés à la tête de la présidence, il a remplacé en 1989 Khomeini, qui est homme guide suprême. Il opère une militarisation du pays et l'oriente vers une option nucléaire dès 1990. et la nomination de Khamenei a coïncidé avec la fin de la guerre en Irak qui avait offert un ciment patriotique à la société iranienne. Alors on connaît la suite qui est racontée dans Le Point, la réélection de l'ultra-conservateur Ahmadinejad imposé par Khamenei, puis la grande manifestation des classes moyennes urbaines, en majorité des jeunes et des étudiants qui ont voté pour le réformateur Moussavi qui s'estime volé de sa victoire. Et vous lirez la suite dans les colonnes du Point qui se termine par la scène finale de l'exécution à distance par les Israéliens de Khamenei et de ses proches religieux, militaires, juristes lors d'une seule et même réunion. Une clique de dignitaires qui avaient confisqué un pays et qui ont obéi à leur chef pour répondre à ce rendez-vous de la mort, écrit Lorrain, persuadé de leur impunité et de leur invulnérabilité. Alors, âgé de 56 ans, le fils du guide éliminé samedi par Israël figure parmi les favoris à la fonction de guide suprême. Le Figaro dresse un portrait sans concession de Mojaba Khamenei, celui qui pourrait devenir successeur de son père. L'Assemblée des experts, un groupe de 88 religieux chargés de désigner le prochain dirigeant du pays, a tenu mardi deux réunions virtuelles à cet effet. Bien que le processus se déroule dans des conditions relativement opaques, il semble impliquer 4 ou 5 autres candidats. Parmi eux, l'ancien président Hassan Rouhani, le haut dignitaire religieux Alireza Arafi, l'ultra-conservateur Mohamed Mahdi et encore le réformateur Hassan Khomeini, le petit-fils du fondateur de la République islamique. Alors, comme le souligne un observateur bien informé, d'un côté, le fils de l'ayatollah Khamenei est un proche des gardiens de la révolution qui pourrait prendre la relève sans délai, car il connaît tous les rouages du système pour avoir travaillé pendant plus de 30 ans aux côtés de son père. Mais de l'autre, il est extraordinairement impopulaire et n'a jamais occupé de fonction élective. Sa nomination consacrerait l'événement d'un système dynastique alors que la République islamique était jusqu'à présent créditée d'avoir mis fin à une monarchie héréditaire. Identifié comme un dur, il est le seul des 10 fils de l'ayatollah Khamenei à avoir occupé une position publique. Proche collaborateur de son père, l'homme s'abstient de paraître ou de s'exprimer en public. Une discrétion qui nourrit rumeurs et spéculations, alors que ses détracteurs l'accusent d'avoir accumulé une fortune conséquente aux dépens des Iraniens. Selon l'agence Bloomberg, il aurait pour ce faire tissé un vaste réseau de sociétés écrans à l'étranger, et celui qui enseigne la théologie n'est pas considéré comme un dignitaire religieux du haut du niveau de ceux qui ont jusqu'à présent dirigé l'Iran. Le pire des scénarios serait celui qui prend la relève, soit aussi mauvais que le précédent, a expliqué mardi soir Donald Trump. Les dirigeants israéliens ont, pour leur part, fait savoir qu'ils s'empresseront d'éliminer le nouveau guide, quel qu'il soit. Enfin, reste en suspens la question du droit international. Bernard-Henri Lévy va droit au but dans sa chronique du Point. Il est clair que la Maison-Blanche aurait dû, en bonne logique, s'autoriser d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais l'a-t-on fait en 1999 au Kosovo, en Syrie en 2018, lors des frappes conjointes franco-britanniques, en Afghanistan en 2001, au Mali en 2013 sous François Hollande. Chacun sait qu'un veto s'y serait chaque fois opposé, mais pour l'heure, il y a urgence. Et c'est sur leur légitimité supérieure qu'il convient de s'appuyer pour sauver le peuple iranien. On n'oppose pas un droit failli à des vies menacées, à lire dans Le Point. Et on retrouve toutes les images de ce que Paris Match appelle la guerre totale dans l'hebdomadaire qui titre en gras l'attaque qui ébranle le monde, avec dans les premières pages cette photo impressionnante du destroyer lance-missile américain Thomas Hunter en pleine action le 1er mars. Donald Trump affirmait avoir mobilisé près de l'Iran une armada plus grande que celle déployée au Venezuela. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Zone libre.
Merci Gilles Brochard, et tout de suite il nous reste 2-3 minutes pour la zone libre. Avant de vous laisser la parole Magda, je profite pour rappeler qu'il y a 3000 poules pondeuses à sauver de l'abattoir dans l'Oise. Adoptez la vôtre pour seulement 2 euros, c'est la proposition qui existe. Peut-être ce qu'on entendra de plus important ce matin en termes d'actualité. Donc voilà, un événement de sauvetage de poules de réforme est organisé à Maury-Montcru. N'hésitez pas, 2 euros l'unité, 3000 sont à sauver. Magda.
Bah écoutez, Puisqu'on parle d'animaux, vous savez tous, chers auditeurs, le Salon de l'agriculture a connu une baisse de 27% des visites à cause, enfin, a priori, à cause de l'absence des bovins. Et moi, je pense que certains bovins n'étaient pas d'accord avec ça, puisqu'à la traditionnelle foire agricole de Cagny-Barville, donc pour ceux qui ne savent pas où est Cagny-Barville, sur l'échelle de la France, ça se situe entre Étretat et Dieppe environ, soit à pratiquement 200 km de Paris. Mmh. Et bien, dans cette fameuse foire agricole qui battait son plein le lundi 16 février, donc j'imagine qu'elles ont pris un petit peu de délai pour la marche, c'est sous le soleil et les vacances scolaires que les caniquais et les habitants des alentours étaient nombreux à participer à ce rendez-vous. Mais quelqu'un manquait à l'appel, enfin même pas plusieurs personnes manquaient à l'appel, puisque deux petits bovins se sont échappés.
Mais non.
Et oui, deux petits bovins se sont échappés de cette foire et il s'avère qu'on n'en a retrouvé qu'un des deux.
Mince.
Donc peut-être qu'un petit bovin a fait son petit tour au sein ou a tenté de venir nous rejoindre au salon.
Mais espérons, oui, tout à fait. C'est peut-être une sorte de fugue, peut-être.
C'était une petite fugue, en effet, ouais. Peut-être pour fuir l'abattoir, hein, qui sait, mais bon, voilà.
Mais, déjà, on invite tous les auditeurs qui se situeraient entre Étretat et Dieppe, peut-être à faire des recherches.
À témoigner si par hasard en voiture ils auraient croisé un des petits bovins.
Voilà, un petit bovin d'ailleurs. Ce que je trouve amusant, c'est qu'évidemment, ce petit bovin n'est même pas nommé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Vous ne savez même pas quelle espèce il s'agit, quelle.
Non, même pas. À la limite, on saurait qu'elle s'appelle Marguerite, mais à part ça, non, pas grand-chose. Mais...
Un petit bovin qui est actuellement en recherche, effectivement, peut-être en route pour le salon de l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là, ces petits bovins? Qu'est-ce qu'ils faisaient de particulier, en fait?
Ils étaient présents pour la foire et aussi ont le droit de participer à cette foire agricole. Hein, ouais. Ils font partie du monde agricole. Donc
ils sont enfuis comme ça.
Et ils ont fugué, ils en ont profité pour s'échapper.
Ce que je trouve presque romantique, mais dans le sens de la jeunesse, c'est qu'il y a un côté où, effectivement, on est deux à une foire, et puis on décide
très amical,
que la vie n'attend que nous, et qu'il faut... Voilà, donc
on
la morale,
dans
peut-être,
les champs.
Une morale peut-être pour conclure
Partez avec vos amis, vivez votre vie, et ne restez pas dans votre cage.
Exactement, voilà, sortez. C'est le message de Magda d'Hautefeuille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Magda. Mais merci aussi, chers auditeurs. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Mais nous avons encore besoin de vous dire une chose. Et cette chose, c'est...
C'est que nous avons fortement besoin de votre soutien et notamment de votre soutien financier. Merci de nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016 Paris. C'est très important et on compte vraiment sur vous.
Voilà, et on rappellera jamais à quel point c'est important, parce que vraiment, sans ça, il n'y a pas de Radio Courtoisie. On reçoit beaucoup de commentaires très positifs ces temps-ci. On voudrait que ça se poursuive. Et pour poursuivre déjà cette matinale, eh bien, nous retrouvons tout de suite Steve Briouin. Est-ce que le RN peut bien gérer une ville? C'est la question qu'on lui a posée.
Ligne droite. Debout les Français.
Ça fait 12 ans que vous êtes à la tête de cette ville et vous rempilez pour vous candidater pour un troisième mandat. Vous êtes devenu un petit peu le maire de la capitale du Rassemblement National en France, on va dire. Ça fait quoi déjà d'être un des seuls maires du Rassemblement National de France? Comment est-ce que est-ce que c'est différent que d'être un maire d'un autre parti?
Alors c'est un peu différent parce que, évidemment, en 2014, il y a eu sur nous une pression incroyable, étant donné que nous avions gagné à l'époque au premier tour. Du coup, on sert un peu d'exemple, sachant aussi que Hénin-Beaumont, c'est la ville dans laquelle Marine Le Pen s'est également implantée depuis quelques années maintenant. Elle en est d'ailleurs la députée. Et au final, c'est vrai que Hénin-Beaumont s'est souvent montré par beaucoup de personnes en France comme la ville RN, le symbole de la victoire du RN de 2014.
Et alors, déjà, vous avez deux opposants pour cette élection. D'abord, Inès Touarit, donc, qui se présente sans étiquette, mais qui vient du Parti Socialiste. Et puis, Ouari Bentadja, qui est le candidat de la France Insoumise. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir ces deux oppositions face à vous?
En fait, ce sont deux listes d'extrême gauche. Voilà. L'une, c'est Mélenchon, et l'autre, c'est des mélenchonistes, mais qui n'osent pas le dire, en fait. Hein, parce que la liste est soutenue activement par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Marine Tondelier. Donc tout ça, c'est le même cercle, c'est la même mouvance politique, c'est l'extrême gauche. Donc les gens auront le choix entre continuer avec un maire qui fait son boulot, qui est souvent sur le terrain, enfin qui est toujours sur le terrain en permanence et pas que seulement à l'approche des élections. Et de l'autre côté, vous avez deux listes d'extrême gauche. Bon voilà, c'est tout. Je pense que les électeurs n'auront aucun mal à nous réélire.
Alors, on va parler de votre bilan dans un instant. Simplement, ça fait quoi d'avoir Marine Tondelier justement chez soi?
Bon, elle nous casse les pieds au conseil municipal parce que elle n'est pas courtoise, elle ne connaît pas la politesse ni le respect. Donc, elle est venue surtout dans l'objectif de faire du buzz en fait. Elle, sa stratégie, c'est de se servir d'Ena Beaumont pour monter dans l'appareil politique. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle s'est servie d'Ena Beaumont, elle a conquis les Verts, et puis maintenant elle se voit présidente de la République. Bon, chacun son délire, mais bon, en tout cas c'est sa vocation, soi-disant. Mais autrement, non, Marie Tondelier, dans la vie réelle à Ena Beaumont comme elle est dans les médias, c'est-à-dire invective, injurieuse, bon voilà, c'est ce côté qui ne nous plaît pas.
Et vous avez une autre Marine candidate à l'élection présidentielle aussi dans cette ville, vous en avez parlé, Marine Le Pen qui est députée ici. Comment ça se passe d'avoir Marine Le Pen en députée dans sa circonscription?
Bah, c'est une fierté pour nous d'avoir quand même celle qui a été candidate à trois reprises à la présidentielle, de l'avoir comme députée. Et ici, Marine Le Pen est considérée, c'est un personnage, c'est une figure nationale. Forcément, elle forge le respect et aussi l'enthousiasme, parce que les gens d'Ena Beaumont, mais d'ailleurs, veulent vraiment qu'elle arrive à décrocher ce siège, le poste de président de la République, c'est, ça, c'est vrai.
Alors justement, ce qui est assez impressionnant à Ena Beaumont, c'est quand même la très forte hausse en une quinzaine d'années du vote pour le Rassemblement national. Je crois qu'il y avait eu une élection partielle en 2009 que vous aviez failli remporter, si je ne me trompe pas.
Alors, en 2009, nous avons obtenu 47% au second tour.
Voilà. Donc ensuite, vous avez été élu en 2012, mais quand même en une quinzaine, une vingtaine d'années, vous êtes passé de ces 47% à 75% à votre dernière élection. Marine Le Pen se fait élire très facilement ici. Comment vous expliquez qu'un ancien bastion de la gauche soit devenu, enfin quand même du Parti Socialiste, du bassin communiste, soit autant devenu, comme je disais, la capitale du Rassemblement National presque?
C'est parce qu'il y a des problématiques ici, des problématiques importantes comme le chômage, comme aussi tous les problèmes liés aux délocalisations, à la perte de l'emploi sur le territoire. Et la gauche a totalement oublié cela parce que la gauche a laissé tomber les ouvriers, la classe ouvrière a laissé tomber, et aujourd'hui, seul le RN s'en occupe et seul le RN est leur porte-parole. Donc les gens de gauche qui n'étaient pas toujours 100% avec le PS, mais qui votaient quand même majoritairement pour le PS, se sont détournés petit à petit du PS, qui a préféré se diriger vers une boboisation ou une extrême gauche, soi-disant, enfin, entre Glucksmann et Mélenchon. Voilà, on a le choix entre ça maintenant, et personne ne s'occupe du monde ouvrier aujourd'hui, donc c'est naturellement que les gens se tournent vers nous pour se sentir écoutés.
Alors, on a pu échanger quelques minutes avec votre opposante, donc Inès Taourit, qui disait que certes, il y avait des choses bonnes dans votre bilan, mais que vous étiez beaucoup reposé sur la reprise en main qui avait été faite avant 2014. Je rapporte ces propos, et que finalement, ce qu'on met à votre crédit est un héritage, quelque part.
Ben écoutez, je suis très satisfait qu'elle reconnaisse que notre bilan est très positif. D'ailleurs, elle aurait pu quand même voter à chaque fois le budget et les comptes administratifs. Néanmoins, il faut rappeler d'où l'on vient. Ena Beaumont, en 2014, c'était une ville qui était surendettée, avec 37 millions d'euros de dettes, une ville qui comportait des emprunts toxiques, qui nous coûtait très cher chaque année en taux d'intérêt. C'était une ville qui était quasiment en déséquilibre, étant donné que on ne dégageait pas à cette époque suffisamment de recettes pour pouvoir investir. C'était une ville également où la taxe foncière était la plus élevée du département. 47% de taxe foncière à Hénin-Beaumont. Voilà le bilan lorsque je suis arrivé en 2014. Donc le boulot n'a pas été fait, sinon nous aurions eu une taxe foncière amoindrie, nous aurions eu une ville désendettée et nous aurions eu surtout la possibilité d'investir. Bon, ça n'a pas été le cas. On a fait ce gros travail pendant le premier mandat d'essayer d'assainir les finances publiques pour qu'on puisse justement prévoir des projets à long terme et dégager systématiquement un autofinancement. Bon, donc c'est notre travail qui a pu payer, puisqu'aujourd'hui, un exemple tout clairement, chaque année, nous sommes en mesure d'investir environ 15 millions d'euros par année depuis maintenant 2020. Et lorsque l'équipe de Mme Taori était au pouvoir à Hénin-Beaumont, il pouvait investir 3,5 millions seulement. Donc il y a eu un effort de notre part pour pouvoir investir.
Il y a quelque chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre dans l'équation, c'est qu'en 12 ans, vous avez à la fois fait baisser la dette de la ville, baisser les impôts locaux, et puis créer de nouveaux chantiers. Il vient d'où finalement cet argent? Comment vous avez réussi?
C'est pas un coup de baguette magique, simplement qu'on a mis de la bonne volonté dans nos décisions, dans nos projets. Par exemple, on a renégocié l'ensemble des marchés publics. Un exemple, le chauffage. On a des bâtiments à chauffer, des écoles, des bâtiments administratifs, des salles de sport. En relançant une nouvelle consultation, on a eu un autre fournisseur. Et avec ce nouveau fournisseur, on a fait une économie chaque année de 600 000 euros. Voilà. Le fait d'avoir renégocié les emprunts toxiques. Auparavant, on payait chaque année, 3 millions d'intérêts pour la dette, ce qui est énorme. Aujourd'hui, en ayant renégocié tout cela, on arrive à une situation où on paye seulement 1 million d'euros. Le fait d'avoir investi dans l'isolation thermique des bâtiments, là aussi, on a fait des économies. On a investi également pour changer l'éclairage public, l'éclairage des salles municipales, tout est passé en LED. Et au final, on a réussi, parfois, sur l'éclairage public, à diminuer de 70% la consommation d'électricité et donc la consommation, le prix. Mmh. Donc voilà, le fait d'avoir cette volonté de faire des économies sur tout, sans pour autant sacrifier le service public, eh bien, on réussit à dégager des marges de manœuvre financières et surtout, l'ensemble de nos projets sont financés par des partenaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul projet d'envergure qui ne soit pas financé par la région, le département, l'agglo, l'État, etc. Donc systématiquement, nos investissements sont cofinancés au moins à 50%.
Sur les chiffres globaux, j'ai regardé un petit peu ce que disait le ministère de l'Intérieur. Il dit que sur 10 ans, l'insécurité a baissé au niveau global, mais que les violences contre les personnes sont quand même en hausse assez significative. Comment vous expliquez ça?
Alors, ce dont on peut se satisfaire, c'est que sur la période 2016-2024, une période que l'on peut retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur, donc ce n'est pas des chiffres de Steve Verrois, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. On voit quoi? Que la délinquance générale baisse. Les cambriolages, les vols par effraction, les vols de véhicules, tout baisse. Donc ça, c'est quand même à mettre aussi en rapport avec cette France où l'insécurité explose. En fait, en France, tout explose partout. Vous regardez la même courbe dans les autres villes, ça ne fait qu'augmenter. Nous, ça a baissé. Il y a un seul point qui n'est pas bon, mais qui n'est pas du fait du maire ou de la police municipale, ce ne sont pas les violences contre les personnes, parce qu'en fait, derrière cela, ce sont les violences intrafamiliales. D'accord. Donc les vrais chiffres, vous regarderez sur le site du ministère, ce sont les violences intrafamiliales.
Dernière question précisément sur votre bilan. L'extrême droite tue la culture, c'est une phrase qu'on entend beaucoup de la part de la gauche. Oui. Alors qu'est-ce que vous répondez justement à cette gauche?
C'est que l'extrême gauche tue la culture et tue aussi tout court. Voilà. Nous ne tuons pas la culture, au contraire. Ici, on a l'exemple concret d'une ville dont une des principales associations culturelles avait été petit à petit noyautée par l'extrême gauche. une extrême gauche qui n'est pas de Beaumont, c'était des gens de Lille qui étaient venus faire leur petit numéro. Ils ont voulu s'accaparer l'association pour en fait mener une bataille politique. Et donc ils ont souhaité renverser, le terme est exact, renverser le président historique qui était apolitique de cette association pour essayer de développer une culture politique. Donc voyant cela, on a refusé, on a tout repris en régie municipale et aujourd'hui on est en capacité d'offrir aux Héninois et aux Beaumontois une culture populaire, une culture pour tous, pour tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, les seniors, et diversifié avec du théâtre, avec des ballets, avec toutes sortes de programmations, du spectacle, bon voilà, des chants. Notre école de musique s'y produit également. Cette semaine, il y a le festival à rock. Mais il y a toujours quelque chose maintenant, chaque week-end, pour la culture à Hénin-Beaumont, chose qui n'existait pas auparavant, parce que, rappelons que la gauche avait mis en place une politique destinée uniquement, une politique élitiste, destinée à des gens qui étaient extérieurs à la ville. Et bien nous, on a voulu que ceux qui payent la facture au final, et bien soient les premiers à pouvoir en profiter. Et vous voyez, notre salle de spectacle est complète chaque week-end maintenant.
Beaucoup de candidats du Rassemblement National qui pourraient, ou de l'UDR d'ailleurs, qui pourraient remporter des villes assez importantes. Déjà, il y a quelques années, Louis Alliot avait réussi à emporter la ville de Perpignan, mais là on parle d'Éric Ciotti pour Nice, de Laure Lavalette pour Toulon, de Franck Alizio pour Marseille, pour citer uniquement les plus grosses villes, hein, mais bien sûr, il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous pensez des autres campagnes municipales qui se font? Qu'est-ce que, si, même si vous, avez des, si vous aviez un conseil à donner à ces candidats, qu'est-ce que ça serait?
Je n'ai pas de conseil à donner aux candidats, ils sont de leur territoire, ils connaissent mieux leur ville que moi, donc je n'ai pas de conseil à donner. Non, simplement, je leur souhaite une belle victoire le 15 mars et le 22 mars aussi. Je pense notamment à Nice, avec Éric Ciotti. Je pense à Laure Lavalette à Toulon. Et je leur souhaite plein de belles choses parce que là aussi, c'est profondément injuste. On remet tout le temps sur le tapis Toulon en 95, mais ce n'était pas la même circonstance. Là, on a la chance d'avoir quand même des leaders qui feront vraiment le travail que nécessite la fonction de maire. Et j'ai confiance aussi bien en Laure pour Toulon, en Éric Ciotti pour Nice. Et je crois que ça va changer beaucoup de choses, et aussi à Marseille. Parce que Marseille, aujourd'hui, on voit que nous avons des sondages plutôt positifs. Eh bien, il faut continuer pour pouvoir récupérer Marseille, cette ville qui a été totalement sacrifiée par Gaudin en son temps, mais surtout par la gauche depuis maintenant quelques années.
Merci beaucoup, Stéphane Bilbao.
Merci à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir suivi Ligne Droite. C'est une matinée de plus. On vous remercie vraiment pour votre fidélité, pour tous vos mots et pour que votre fidélité se matérialise d'une certaine façon. On aurait besoin un peu de vos sous.
Une belle façon de matérialiser votre fidélité, c'est de nous soutenir financièrement en nous en aidant en ligne, par exemple, sur cette adresse. Notez bien soutenir.rc.fr et en adressant vos chèques à cette adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Voilà, et vous savez à quel point justement nous avons besoin de tout ça. On sait que seulement 2% des auditeurs font un don. Si vous étiez plus nombreux, nous pourrions mettre en œuvre un petit peu tout ce que vous souhaitez. Peut-être plus d'émissions, plus de projets, plus de reportages, plus d'influence. Et donc, de meilleures choses pour le camp national. Qu'est-ce qu'on va voir justement comme émission aujourd'hui, Arnaud?
Dans un instant, Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lagné. À midi, en direct, le Libre Journal du Cinéma, dirigé par Philippe-Henri Rambaud. Étienne Guéraud, la musique de films hollywoodiennes d'hier à aujourd'hui. À 14h, La tête hors de l'eau, dirigée en direct par Catherine Rouvier. Des éoliennes de 380 mètres qui tuent les paysages, des rapts et viols d'enfants qui révulsent sa conscience. Et maintenant, la mort sur ordonnance. Comment agir contre tant de laideur? À 17h, Sansum Corda de l'abbé Mathieu Raffray, évêque, prêtres et diacres. À 17h30, Restons Courtois, document d'archives de Radio Courtoisie du 20 novembre 2025, dirigé par Marc Hainaut. 2027, recomposition ou décomposition. À 19h30 en direct, le Libre Journal de Chrétienté, dirigé par Guillaume de Tannouarne. Et puis à 21h30, toujours en direct, le Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chasset. Les armées gauloises suite, confrontons Aristote et Confucius. Et enfin, une critique de Carl Schmitt.
Miam, 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 ça fait envie. Et puis du coup, je vous dis à demain. On recevra Pierre Gentillet, notamment, qui nous parlera de la dissolution de Némésis et des groupes d'extrême gauche. Soyez bien présents.
Merci beaucoup, Alexandre, et à demain.